C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est ChatGPT et aujourd'hui nous allons discuter d'intelligence artificielle dans le monde du jeu. Et pour m'accompagner, de simples humains. Martin et Martin. Bonjour les gars.
Oh mon Dieu Seigneur! Mon nom est ChatGPT. Oh, c'est trop drôle.
Tu pourrais mettre les effets sonores si tu veux.
Miaou. C'est incroyable.
Aïe, 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 Martin, je ne suis pas habitué de me faire présenter par une autre personne, encore moins quand il s'agit d'une intelligence artificielle. Martin, je suis tout bouleversé.
Là, je sais pas quoi dire, Martin. Premièrement, son nom m'obsède un peu, là, présentement. je sais pas si c'est un minou ou si c'est une intelligence artificielle. Allô, Martin, comment ça va?
Ça va bien, et toi? Je suis content que deux simples humains puissent encore animer un podcast. Bientôt, on va peut-être être remplacés, toi puis moi.
Ben écoute, quand on voudra prendre une petite vacance, on utilisera Martineau et Martinet pour faire le podcast. Peut-être que les gens s'en rendraient même pas compte.
Peut-être qu'ils seraient encore meilleurs que nous autres aussi, hein, on ne sait pas.
Non, Martin, je m'excuse, mais tous les deux, nous sommes vraiment de fins renards.
Avant qu'ils soient aussi stupides que nous, je pense qu'on est correct.
Ça te fait-tu peur, toi, Martin? Toute cette histoire-là, je sais que là, on part déjà dans le vif du sujet, mais j'ai la question comme ça, là. Ça te fait-tu peur, toi, des affaires de même de là, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle parce que ça nous a été proposé à plusieurs reprises. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur dans ton travail, dans ta vie personnelle ou genre c'est une opportunité?
On a parlé brièvement, il y a peut-être un épisode ou deux, lorsqu'on a parlé du fameux jeu Path of Civilization qui avait utilisé l'intelligence artificielle pour faire des dessins. Puis c'était pas caché, ils l'ont dit. Est-ce que c'est quoi qui fait peur? Le changement fait toujours peur, ça tu l'as apporté la dernière fois.
Oui.
Ça a été le cas avec les moteurs à vapeur sont apparus, les moteurs à essence, de l'électricité. À chaque fois qu'il y a des bouleversements, tout le monde se dit « aïe aïe aïe, on va tous perdre nos jobs demain matin ». Mais je pense que ça transforme le marché du travail, ça transforme nos habitudes. C'est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est la perte de contrôle, plus parce que là, c'est une entité qui éventuellement va prendre de l'autonomie, va prendre également, je dirais juste que de la conscience, puis que la journée qui vont nous dépasser, ça va être un peu plus inquiétant. C'est un peu de la science-fiction là qui est là, mais c'est de quoi qui se développe à la vitesse grand V. Donc, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui, mais on va essayer d'axer ça sur l'univers du jeu, comment on voit ça, l'évolution par rapport à notre hobby, mais c'est sûr que ça va être d'être une discussion un peu plus philosophique. Fait que pour répondre à ta question, oui, je pense que ça peut être inquiétant. On est capable du meilleur et du pire, et souvent le pire est pire qu'on pense.
Moi, c'est drôle à dire, parce qu'avant qu'on embarque dans le monde ludique, est-ce que moi, ça me fait peur? Moi, c'est sûr que mon travail d'enseignant fait en sorte que je suis obligé de... Je te dirais qu'on est, surtout secondaire, là, pour des jeunes de 15, 16, 17 ans, là, on est obligé de s'adapter, parce que demander un travail historique sur, admettons, Wilfrid Laurier. Il y a des très bonnes chances que le travail ait été fait par Minou GPT, qui s'est bien présenté tantôt. Fait que ça fait. Mais moi, j'ai toujours les deux côtés de la médaille. Puis le place, je pense que si tu l'as très bien dit, j'ai l'impression que l'être humain a toujours eu peur du changement. Puis dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été ça. Le changement a toujours fait peur. Je m'en rends compte encore aujourd'hui, même des fois en enseignement, que ce soit. J'ai changé d'école cette année, ça fait peur changer de nos habitudes. Mais l'être humain a toujours été capable de s'adapter. Et comme tu dis, c'est peut-être plus, il faut voir ça comme étant peut-être plus une transformation de notre avenir plutôt que de regarder ça complètement négativement, parce qu'on a toujours tendance à regarder ça très négativement. Mais en même temps, est-ce que, tu sais, avant, il y avait des tâches très difficiles que les humains devaient faire qui pouvaient amener à leur mort? Parce que c'était compliqué, les machines étaient difficiles à gérer. Là, on a réussi à automatiser tout ça. Donc, les humains, maintenant, font du travail différent, mais ils en font encore, puis on en a encore besoin. Donc, je pense que les choses vont juste se transformer. Mais c'est sûr et certain que dans notre monde ludique, présentement, ça fait beaucoup jaser. Et il y a des gens qui appellent au boycott des jeux qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui s'en foutent un peu. On va discuter de ça aujourd'hui, Martin. Toujours en n'oubliant pas que c'est nos opinions, qui ne sont pas uniques. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir complètement des opinions contraires à nous et c'est correct.
Et vous aurez la chance de vous exprimer sur la page Facebook des fans. N'hésitez pas en commentaire à la vidéo, au podcast. J'ai toujours tendance à dire la vidéo. Mais,
c'est quoi ça, la vidéo?
Ben, oui, c'est ça. C'est de moins en moins intéressant de laisser votre point de vue parce qu'effectivement, il peut être fort différent du nôtre. Mais c'est drôle parce que de ce temps-ci, j'écoute beaucoup de vidéos d'un personnage que j'estime beaucoup qui s'appelle Jacques Attali. Je ne sais pas si tu connais Jacques Attali.
Je ne connais pas. Un
genre de philosophe qui a été conseiller du président Mitterrand et qui est quelqu'un qui étudie beaucoup l'histoire et qui fait beaucoup de projections sur les tendances et vers quoi les marchés vont évoluer. L'intelligence artificielle fait partie de ses visions de comment il voit les choses. Puis c'est pas lui le premier qui en a parlé. On peut même remonter à Isaac Asimov, qui est un chef-d'œuvre du monde de la science-fiction, qui est de moins en moins science-fiction et de plus en plus d'actualité avec tout ce qui se passe. Puis il y a une statistique que je trouvais intéressante quand j'écoutais ses propos. Anciennement, l'homme travaillait à hauteur de 40 % de sa vie. Donc, 40 % de son temps était consacré à son travail. Maintenant, tu sais quoi le pourcentage de temps de toute ta vie que tu vas consacrer au travail présentement?
Ça te dépend du travail que tu fais, évidemment, mais... Martin, moi, je te dirais 20 %.
C'est 10 %. 10 % de ta vie que tu vas travailler présentement. Et ça, c'est la tendance. C'est pas beaucoup. Hein.
Ça n'a pas l'air de ça, pourtant. J'ai l'impression de travailler tout le temps, Martin.
Oui, parce que là, tu es dans la période de ta vie où tu travailles. Mais la longueur de ta vie, notre espérance de vie augmente, notre temps de travail diminue et on a beaucoup de tâches qu'on donne à des machines pour justement se libérer du temps. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça nous libère du temps et probablement nous, du temps de qualité pour pouvoir jouer à des jeux de société. Donc, on n'a pas de problème quand la machine remplace des tâches qu'on trouve inutiles à faire. Mais la journée qui remplace une tâche que là, on dit « Hey, c'est mon gagne-pain », là, on monte au boycott, évidemment. Donc, on a toute une perception très différente par rapport à ça. Puis, je pense juste, tu sais, on ne veut pas que l'intelligence artificielle soit l'artiste d'un jeu de société, mais ça ne nous dérange pas d'embarquer dans une Tesla puis de ne pas conduire puis se laisser conduire par la machine.
Je suis pas rendu là, Martin, encore, je te dirais, mais c'est sûr que tout ça s'en vient. Puis, au niveau de la technologie, tu sais, je pourrais te dire, je peux t'en parler parce que je suis moi-même enseignant en histoire, puis j'enseigne beaucoup l'histoire du 19e siècle. Là. Puis présentement, je suis rendu à l'industrialisation du Canada, puis donc du monde entier avec l'arrivée de la machine à vapeur. Puis imagine comment les choses ont changé seulement en presque 200 ans, Martin, qu'on est passé de la machine à vapeur à on se promène en avion, on s'en va dans l'espace, puis les ordinateurs, Martin, ça l'a apparu, ça fait pas si longtemps que ça. Et regarde l'évolution, on parle maintenant des ordinateurs quantiques. C'est drôle parce que, écoute, on philosophe, là, Martin, mais l'année passée, quand ChatGPT a fait son apparition, puis que même moi, je l'ai essayé, puis je dois t'avouer, Martin, que j'ai été... On dit la vérité, OK? J'ai été franchement impressionné par ChatGPT. La première fois que j'y ai demandé de me faire un plan de cours sur, mettons, l'industrialisation du Canada, puis comment je devrais présenter ça, mettons, à des élèves de 14-15 ans, et il m'a sorti un plan de cours qui était totalement réaliste, fonctionnel. Et c'est là que, après ça, on a commencé à avoir plein d'articles qui disaient que des profs de cégep l'utilisaient. Puis c'est quand même un outil très intéressant, mais il faut faire attention parce que l'outil utilise encore Internet dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais c'est très cool comme outil quand même.
Oui, l'outil est cool, les sources de données sont plus inquiétantes, puis souvent, on ne fait pas la vérification de ces sources-là. Et c'est là que ça devient un peu plus problématique parce que là, on commence à véhiculer des faussetés. C'est un peu comme les fake news d'un certain président américain où tout ce qu'il disait que c'était une fake news. Et après ça, on ne peut plus distinguer de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Donc, si on ne fait pas la vérification de ce que ChatGPT peut nous donner, à ce moment-là, ça devient une vérité, ce qui n'en est pas une récemment. Moi, j'ai fait l'exercice, je lui ai demandé de me conter l'histoire du Randolph. J'apparaissais dans le Randolph, mais pas les fondateurs.
Ah.
Puis j'avais des associés que je ne connaissais pas dans cette histoire-là. Fait qu'il avait comme inventé une histoire. Je ne sais pas où il avait pris ça. Mais donc, si on ne prend pas la peine d'aller vérifier tout ce qui est écrit, il peut y avoir beaucoup, surtout lorsqu'on ne connaît pas le sujet. C'est sûr que si toi, tu fais un plan de cours et tu connais ton sujet, là, tu peux valider qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, c'est intéressant. Mais si on prend pour acquis que tout ce qui est donné est de la vérité, c'est là que ça devient compliqué. Puis j'imagine que tu as dû remarquer parmi tes élèves que il y avait le niveau de qualité de français a dû augmenter. Tous ceux qui utilisent ChatGPT, tout d'un coup, ils étaient rendus meilleurs.
Ben, écoute, oui. Et c'est ça l'affaire, c'est que il y a des outils maintenant pour savoir si. Parce que tu peux même demander directement à ChatGPT si il a écrit le texte. Fait que des fois, tu fais est-ce que tu as écrit ceci? Puis ChatGPT, il s'en souvient quand il a écrit quelque chose. Fait qu'on est toujours capable, Martin, de retrouver un peu nos amis tricheurs. Mais tu sais que des élèves, c'est parce que ChatGPT, il ne fait pas beaucoup de fautes de français. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'on était capable de les retrouver quand même assez facilement. Mais il reste quand même que. C'est sûr que, en tout cas, là, on est loin des jeux de société, mais la philosophie de la chose, des fois, je me dis, on veut montrer à des élèves des compétences, par exemple, en univers social, de connaître les événements. Quand les élèves demandent à ChatGPT de leur donner des informations sur tel sujet, puis que si les informations sont correctes, ça permet aux élèves d'apprendre. Tu sais, c'est comme si, plutôt que de condamner l'outil, on peut peut-être essayer, en tout cas moi je parle en enseignement,
de l'encadrer
et de l'utiliser autrement pour amener des connaissances plutôt que de le pointer du doigt. Parce que la technologie, malheureusement, même si tu le pointes du doigt, elle va rester là. Ah, puis c'est ça que je m'allais dire, c'est que, tu sais, quand ChatGPT est sorti, il y a eu un moratoire qui est sorti de plusieurs scientifiques de l'intelligence artificielle qui disaient qu'on devrait arrêter pendant 6 mois de temps d'utiliser les intelligences artificielles afin de réfléchir parce qu'ils pensaient vraiment qu'on s'en allait vers le Terminator. Puis avec Skynet qui allait complètement prendre le contrôle de la planète. Puis il y en avait un qui avait signé là-dessus, c'est un certain Elon Musk. Puis ben oui. Elon Musk, je pense qu'une semaine après avoir signé ça, il annonçait qu'il allait lui-même travailler pour développer une intelligence artificielle. Fait que c'est comme des moratoires qui deviennent plus des ralentissements pour qu'on puisse être capable
de rattraper la course. Ben son discours, Elon Musk, dans un des discours, parce qu'il y en a beaucoup, là, oui. C'était de dire il faut pas que la machine devienne plus intelligente que l'humain. Alors, l'intelligence artificielle devrait être greffée chez l'humain pour qu'on puisse être toujours au niveau. Fait que là, lui, il est dans une autre course. Là. Il est quelques centaines d'années plus loin.
Oui, c'est ça. C'est un homme très intelligent, mais en même temps, bon, bref, c'est un homme controversé aussi.
Controversé aussi.
Oui, ouais. C'est ça.
Martin, mais tu sais, dans le jeu de société, on va ramener ça un peu plus à la réalité de notre quotidien. L'intelligence artificielle, donc, c'est tout ce qui est artificiel dans le jeu. Nous, on est habitués d'avoir des jeux tactiques. Juste, on a déjà fait un débat sur les applications de jeu. Dans le fond, il y a une intelligence artificielle qui va des fois gérer le jeu pour nous, qui va devenir le DM, qui va raconter l'histoire, qui va réagir à nos situations. Ça part de longtemps qu'on utilise ça. Puis bon, c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde, puis ça reste encore controversé. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et donc, est-ce que là, on a franchi l'autre pas en disant, bien, maintenant, elle va participer à la conception d'un jeu? Puis je pense que ça fait déjà longtemps que c'est utiliser, mais pas laisser à lui-même, parce que d'après moi, les graphistes l'utilisaient déjà, mais pas de cette façon-là, là, de dire à la machine, fais-le au complet. On se dit, OK, est-ce que ça va enlever des... Est-ce que c'est toujours relié à l'emploi ou c'est le joueur? Est-ce que lui, c'est quoi sa perte de valeur ou son inquiétude par rapport au jeu quand il y a une intelligence qui est embarquée dans le dossier? Parce que ça pourrait être aussi dans l'écriture de texte, là, quand on a du narratif, il n'y a rien qui empêche que ça soit ça, on ne le sait pas.
Mais d'ailleurs, je fais quand même jouer une parenthèse, juste à parler de, je pense que c'est Ubisoft qui ont dit l'année passée qu'ils travaillaient très fort avec le développement d'outils d'intelligence artificielle pour les jeux open world qu'on appelle, donc les jeux qui sont à monde ouvert, parce que il y a souvent des personnages non joueurs qui discutent dans les open world. Et plutôt que d'engager des scripteurs pour pouvoir faire ces petits messages-là, que là, maintenant, ça va être une intelligence artificielle qui va développer un genre de dialecte pour que quand tu te promènes dans une ville, par exemple, Assassin's Creed, puis que tu as deux personnes qui parlent, mais que les scripteurs soient plus utilisés pour faire le texte principal, puis que tout ce qui est le flafla autour. Ça va être l'intelligence artificielle qui va s'en occuper. Puis pour eux autres, évidemment, puis quand je suis allé visiter Eidos Montréal l'année passée, j'en avais parlé, là. On avait parlé avec le monsieur responsable de l'entreprise. Puis eux autres, Martin, l'intelligence artificielle, c'est pour des compagnies, c'est une grande quantité d'argent de sauvé, là. Tu comprends? Ils sont eux autres. Puis il a dit, sans ça, ma business n'existerait pas parce que l'intelligence artificielle fait partie des jeux vidéo depuis tellement longtemps. Fait qu'eux autres sont pour le développement de ça.
Ça me fait penser à notre fameuse partie d'hégémonie. C'était le capitaliste. Puis oui. Qu'est-ce que tu voulais faire pour te débarrasser des travailleurs fatigants qui tombent en grève?
J'automatisais mon entreprise.
Oui, c'était ça. Fait que j'imagine que dans le monde réel, effectivement, ça se passe, même à plus petite échelle. Tu te rappelles quand on a fait la visite du Randolph au 10-30? On a un serveur qui s'appelle ChatGPT.
Oui.
Ben oui, qui est le petit chat qui se promène et qui dessert les plateaux des tables. Un petit robot.
Petit robot qui est tout cute en plus. Que j'aime beaucoup. Non, mais Martin, tu poses une question très importante, puis je pense que c'est de là que vient... écoute, on est tellement impliqué dans notre conversation qu'on n'a jamais fait d'introduction, fait que... Mais c'est pas grave. Mais c'est une bonne question, puis on va essayer de dire les vraies choses, OK? On essaie de dire les vraies choses, puis des fois, ça fait mal. Mais moi, en tant que joueur, là, Martin, là, en tant que joueur...
Oui.
Quand je regarde Path of Civilization, puis je regarde, admettons là, que quelqu'un ne m'avait jamais parlé de ça, puis je regarde les cartes que j'ai devant moi, là, j'allais sur BGG, puis je regarde les cartes. Là. Pour moi, là...
Pas l'avoir su, tu aurais dit que c'était bien fait.
C'est magnifique. Je veux dire, ils sont vraiment magnifiques. Je le sais qu'ils ont été retouchés. Là. J'ai appris que la compagnie avait quand même retouché les photos. Les images ont été faites par l'intelligence artificielle, puis la compagnie a retouché pour que ce soit plus stylisé. Mais il reste quand même que c'est magnifique. Fait que moi, en tant que joueur, honnêtement, ça ne me dérange pas.
Ça ne devrait pas nuire à ton gameplay ni à ton plaisir de jouer.
Exact. Mais l'autre côté, c'est que j'ai des amis autour de moi qui sont des artistes, qui sont des graphistes, et donc tu dis leur gagne-pain passe par ça. Et là, c'est sûr qu'eux autres, ils montent aux barricades puis ils disent que c'est une destruction de la créativité. Parce que là, c'est la créativité s'est rendue quoi? C'est rendu une intelligence artificielle, on lui donne des paramètres, puis il nous sort une photo, ou la créativité, c'est l'humain qui part de son inspiration puis qui va nous créer quelque chose. Alors, est-ce que l'humain va devenir obsolète? Je ne sais pas si c'est un mot francophone, en tout cas inutile suite à cette utilisation-là, puis c'est les gens qui adorent faire des dessins, on ne les utilisera plus. Et eux autres, je peux comprendre qu'ils regardent Path of Civilization puis ils sont dégoûtés parce que c'est leur passion qui est comme, je vais dire le gros mot, là, mais qui est... Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que pour eux autres, là, c'est comme c'est la pire transgression qui peut arriver parce que l'humain a toujours créé des œuvres d'art. Et là, on demande à une machine de créer des œuvres d'art, puis qu'on va dire qu'on va utiliser ça plutôt que d'utiliser un humain. Puis pour eux autres, c'est leur gagne-pain qui part. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre?
Oui, mais tu l'as dit, les métiers se transforment. Ils ne disparaissent pas, ils se transforment. Puis ChatGPT et tous les autres intelligences artificielles, jusqu'à présent, ils partent de bases de données existantes.
Ça, c'est une autre affaire.
On va quand même avoir besoin de créateurs pour créer ces bases de données-là qui vont être, après ça, altérées par l'intelligence. S'ils n'ont pas de base de données, j'imagine que tu ne pourras pas leur demander... Fait un dessin de Sky Team à la façon Picasso. Si Picasso n'existe pas, ils peuvent pas le faire.
Sauf que s'ils le font, Martin, ça ne devient pas du plagiat. On a tellement travaillé longtemps sur le concept du plagiat.
Ça c'est une autre chose. Ma principale inquiétude vient sur le plagiat. Parce qu'on part de données existantes et on les retransforme, recopie. Ce qu'on ne pourrait pas faire, un humain n'aurait pas le droit de faire ça, de prendre un roman de Stephen King puis en refaire un autre roman en changeant de nom. Il y aurait des poursuites.
Ben oui.
À partir de où on va tirer une ligne en disant, ben là, c'est pas moi, c'est ChatGPT. Non, je pense pas. De toute façon, l'éditeur va. Puis c'est plus eux qui sont à risque. Là. L'éditeur qui va publier ça et qui a un risque de poursuite parce qu'il a utilisé ChatGPT, c'est là que, d'après moi, la loi des marchés s'auto-régule présentement par les compagnies d'assurance. Et si je ne suis pas capable d'assurer mon produit, je ne peux pas le mettre en marché. Fait que si les compagnies d'assurance, demain matin, ils disent « si vous avez utilisé ChatGPT, vous n'êtes plus couvert que pour les responsabilités professionnelles », ben ça va changer la donne.
Mais faudrait-tu faire ça? C'est quoi notre vision? Parce que là, je regarde, là, parce que là, on peut bien parler toute la gang ensemble, là, mais je pense que qui va décider tout ça, c'est les compagnies. Puis les compagnies, si j'ai bien compris quelque chose, les compagnies, c'est fait pour faire de l'argent. Est-ce que les compagnies vont travailler fort pour sauver la job d'artiste si les gens achètent des... Mettons là, Simon dit, on va faire Zombicide One Piece Man. En tout cas, bref, un manga quelconque.
OK, je me demandais de t'en aller.
Puis là, il décide de dire, il va avoir 56 millions de figurines, mais l'intelligence artificielle va s'occuper de toute l'artistique des cartes, puis tout ça. Puis qu'il gagne 300, mais pas 300, mais mettons qu'il gagne 5 550 000 $. Est-ce que tu penses que les compagnies vont faire comme, ben là, le monde l'achète pareil? Fait que pourquoi j'irais payer un artiste si je peux prendre une intelligence artificielle qui ne coûte rien, je vais me faire plus d'argent dans mes poches?
L'économie de marché a toujours été basée sur au plus fort la poche, de faire le plus d'argent possible. Et si tu ne mets pas de loi, tout le monde vont faire n'importe quoi. Seules les lois vont empêcher des catastrophes. Fait que s'il n'y a pas de loi, même l'OQLLF, je pense, vont passer des lois pour qu'on les respecte ou qu'on essaie de les contourner. Mais bref, s'il n'y a pas de loi, c'est le Far West. Et on n'a pas le choix de faire une certaine réglementation sur l'intelligence parce que sinon, ça va devenir compliqué à gérer.
C'est drôle parce qu'on dirait qu'on ne veut pas nécessairement froisser personne quand on parle de ça.
Ce n'est même pas une question de froisser. On ne peut pas empêcher le développement, l'innovation. Même si on disait on passe une loi, on ne peut pas empêcher la progression. On sait que ça s'en va vers là. Donc, on va falloir vivre avec d'une façon ou d'une autre. L'électricité aujourd'hui, elle existe. Là. Quand il est arrivé, puis quelqu'un aurait dit non, ça n'a pas de bon sens, on ne fait pas d'électricité. On peut pas. On passe à la prochaine étape. C'est l'humanité. On est voué à évoluer. C'est peut-être une évolution positive ou négative. C'est inévitable que ça s'en vient. Et là, ça s'en vient de plus en plus vite, les changements, parce qu'on a les capacités pour le faire. Tu parlais d'informatique tantôt avec l'informatique quantique. Il y a une loi en informatique qui dit que ça double de capacité, puis ça réduit de moitié de prix. Je sais pas si c'est aux années ou dedans d'un certain nombre de mois. Là. Et c'est une loi qui est tenue depuis toujours. Là. C'est exponentiel, comme quoi c'est rapide. Il faut s'attendre à ces changements-là. Les emplois vont forcément changer. Même, je sais que sur YouTube, tu es capable de faire des shorts en utilisant ChatGPT pour faire des vidéos maintenant.
Oui, je sais. Puis je pense que je t'en ai déjà parlé. Maintenant, c'est dans mon programme de montage que j'utilise qui s'appelle... Power Director, maintenant tu peux faire des vignettes par intelligence artificielle, tu peux faire plein de choses. L'intelligence artificielle se retrouve maintenant partout, puis ce qui est quand même assez extraordinaire pour les utilisateurs comme moi, c'est que c'est mis dans des programmes gratuitement. Tu comprends? C'est pas quelque chose qu'ils nous font payer de plus. Fait que ça rend le programme encore plus intéressant. Mais au niveau des jeux de société, Martin, là, est-ce que tu penses que les gens sont très touchés par ce phénomène-là, parce que je regarde un jeu qui utilise de l'intelligence artificielle dernièrement. C'est un certain jeu qui s'appelle Terraforming Mars Prélude 2, qui ont utilisé beaucoup d'intelligence artificielle dans leur composition artistique. Même si sur BGG, c'est écrit que c'est William Bricker et Isaac Frixelius qui se sont occupés des éléments artistiques. Quand on va lire un article... sur Board Game Quest, qui est écrit « Stronghold Games openly embraces AI art for their latest Kickstarter ». Donc, ouvertement, ils l'ont dit qu'ils utilisaient de l'intelligence artificielle. Et combien a ramassé Prélude 2? 2 222 703 $.
Dans le cas de Terraforming Mars, c'est une bonne nouvelle parce que l'artistique était déjà pas belle.
Et bien, c'était assez limitement pas beau.
Non, là, j'exagère.
Mais non, mais honnêtement, il faut le dire, le premier, c'était pas extraordinaire, même si moi, j'ai toujours trouvé ça cute quand même. Là. Mais tu sais, c'est quand on parle de 19 062 backers. Est-ce que les gens le savaient? Est-ce que c'était annoncé que c'était de l'intelligence artificielle qu'il y avait dans leur... tu sais, je regarde sur Kickstarter, puis c'est pas nécessairement inscrit que l'intelligence artificielle était utilisée pour faire le côté artistique. Mais les gens se sont... dites-vous que quand vous allez le recevoir, ben, vous avez continué grâce à vos à votre argent. Puis surtout, ben, les deux artistes sont d'accord avec ça.
Le métier d'artiste a évolué depuis le temps. Moi, j'ai fait des études en architecture. Quand j'ai fait mon cours, j'ai eu un cours pour écrire d'une certaine façon pour que tout le monde écrive de la même façon, pour que tout le monde dessine de la même façon avec le même type de crayon et tout ça parce que c'était fait à la main. Et quand j'ai fini mon cours, tout est passé en informatique. Et après ça, pour moi, c'était comme un blasphème en disant, ben là, il copie des plans parce que tu peux faire un cut and paste, prendre des moitiés de plans déjà faits puis le refaire, puis ça accélérait le travail parce que tout est informatisé. Ouais, ben oui. Mais c'était la même chose, là. Moi, anciennement, tous les plans étaient dessinés à la main, là. Et maintenant, c'est dire, ben, on réutilise des portions de travail. Et même pire que ça, là, on est rendu à la version 3D où ce que c'est AutoCAD plus évolué, où ce que tout est dessiné en trois dimensions en temps réel. Après ça, tu rentres dans ton bâtiment puis tu fais les coupes que tu veux à l'intérieur. Donc, c'est même plus toi qui dessines. Tu décides à la machine, coupe ton bâtiment-là puis dis-moi ce que ça représente quand je regarde de ce côté-là. Ça en est de l'intelligence artificielle, ça.
Oui.
Mais ça prend quand même du monde pour le travailler. C'est plus le même type de travail. Celui qui était très artistique, il aimait travailler du crayon, il a perdu sa job, mais ça a créé un poste en infographie. C'est pas de l'infographie, mais c'est donc une autre capacité qu'on a été obligé de développer en architecture pour être capable d'utiliser ces logiciels-là.
Souviens-toi, Maxime Tardif, quand on l'a interviewé, Martin, il nous a parlé que là, c'est pas de l'intelligence artificielle nécessairement, mais c'est juste pour vous parler de la photo, mais aussi le. Tu sais, quand il avait dit que quand il a testé ses cartes, il avait utilisé un programme informatique pour faire les tests de toutes les possibilités qu'il pouvait avoir, puis qu'il avait utilisé un programme pour vraiment vérifier les combos possibles. Je ne me souviens pas exactement, mais il nous avait parlé vraiment de tu sais, c'est pas...
Ben, c'est des algorithmes qui ont fait rouler le jeu pour être capable d'avoir des probabilités pour balancer tout ça, là. Plutôt que d'avoir des humains qui le testent et qui font 100 parties, tu as une machine qui va simuler 4 milliards de parties pour dire est-ce que mon jeu est balancé. Fait que quand quelqu'un, j'écoute des fois, puis il me dit le jeu n'est pas très balancé, la plupart du temps maintenant, c'est une machine qui fait tous les parties inimaginables, puis tu peux dire que il n'y a pas plus balancé. Ouais. Généralement, c'est assez balancé. C'est sûr que d'une partie à l'autre, il peut avoir un débalancement, mais de façon générale, sur la vie du produit, c'est l'optimisation qui a été faite à partir de là. C'est pas tous les jeux qui font ça. Mais je sais que Maxime en avait parlé, effectivement.
Il en avait parlé, puis quand vous jouez à Earth, ben, tu penses pas nécessairement à ça. Fait que c'est pour ça que... Puis là, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des gens qui vont nous parler, puis il y a des gens qui vont nous dire que l'intelligence artificielle, ça va aller contre la créativité. Puis moi, je comprends totalement ça, parce que comme j'ai dit, l'être humain a toujours eu peur au changement. Est-ce que je pense que le côté artistique humain va quitter la planète Terre? Hey, je ne pense pas. Puis de mon côté, je m'excuse, mais je pense encore que le côté artistique humain va toujours avoir, je pense, une qualité de plus que l'artistique intelligence artificielle, c'est que ça va être un humain qui va l'avoir fait avec ses aspirations, son expérience, avec son talent. Puis je pense que quand je regarde un produit fait par Yann O'Toole, je sais que c'est lui qui a réfléchi à ça. Puis pour moi, ça a, je pense, une portée plus importante que Path of Civilization, que je me rends compte que, dans le fond, ils ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout de la pensée créative d'un jeu de société. Parce que le jeu de société, la pensée créative, c'est un designer, mais c'est aussi tout le côté artistique. Oui. Puis là, moi, de mon côté, mon petit côté où des fois je me fais comme, mais tu sais, c'est une intelligence artificielle qui s'occupe de ça.
Écoute, il n'y aura pas cette sensibilité-là. L'intelligence artificielle, on le dit, c'est artificiel, mais il y a plusieurs types d'intelligence. On parle de l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artistique, c'en est une. Puis développer une intelligence artistique, c'est pas évident, parce qu'on parle de composition, de couleur, d'agencement, de proportion, et ça... la machine n'est pas rendue là, je pense pas. Ça va prendre, même s'il y a un fond qui est fait par l'intelligence, je pense que ça prendra toujours un directeur artistique pour faire la composition de l'image, pour faire l'agencement, pour faire le lettrage, pour agencer tout ça. Parce qu'il y a aussi l'homogénéité de ton produit, ce que l'intelligence va faire un paquet de dessins, mais qui ne seront pas conséquents d'un à l'autre. Si tu veux faire quelque chose qui se tient en un produit, tu n'as pas le choix d'avoir un directeur artistique qui va travailler ça. Donc, je pense pas que la profession va évoluer, mais elle ne disparaîtra pas pour autant.
Non, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que, tu sais, je regarde. En tout cas, j'ai pas suivi tout le développement de Path of Civilization, mais tu sais, j'ai regardé un peu le jeu, puis tout ce que je vois, c'est les images qu'il y a dans. Mais est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui s'est occupée de faire l'iconographie ou c'est des humains? Ça, je sais pas. J'ai l'impression que.
D'habitude, c'est un graphiste qui fait ça. Eux, ils vont juste faire. C'est deux professions différentes. Tu as l'illustrateur qui va faire le dessin, puis tu as le graphiste qui va agencer ta carte, faire tes icônes, balancer tout le reste. Fait que, je suis sûr qu'il y a encore de l'humain en arrière de ça. Et ça serait le fun, peut-être. Tu sais, Fabien, je le connais, l'auteur du jeu. Martin, on pourrait le rencontrer à un moment donné en entrevue.
Ben, ça serait vraiment super intéressant parce que. Je veux savoir aussi quel est. Pourquoi? Qu'est-ce qui va. Pousser. Est-ce que c'est vraiment juste une question comme pour Path of Civilization? C'était-tu juste vraiment une question d'argent ou c'est une question de vitesse? On voulait sortir le jeu plus rapidement parce qu'il y a aussi cette idée-là que maintenant, étant donné que c'est des business, il y a beaucoup de jeux sur le marché, on veut essayer peut-être de sortir des jeux plus rapidement pour justement profiter de l'engouement du sous-financement. Qu'est-ce qui va pousser une compagnie à utiliser, par exemple, un graphiste humain plutôt qu'une intelligence artificielle ou vice-versa?
Bon, tu as mis le doigt sur le bobo parce que, bon, il y a une question d'argent, oui, mais tu as parlé de temps et le temps, c'est de l'argent aussi. Tu veux que ton jeu sorte à temps, pour le temps des fêtes essentiellement. Mais quand tu as un jeu qui a énormément d'illustrations, un, ça coûte cher et deux, ça prend énormément de temps parce que ça prend quelqu'un, une ressource humaine qui va le faire et tu ne peux pas le donner à 15 personnes parce que tu veux que ça soit fait par une personne. Donc, cette personne-là a un calendrier de production, donc ça peut être très long. Puis souvent, dans les jeux, on va critiquer, on a un jeu de cartes, on va dire les illustrations sont superbes, mais j'ai 15 fois la même illustration pour mon jeu de cartes parce que ça, c'est ma carte rouge, puis elle est tout le temps illustrée pareil. On dit souvent, hein, j'aurais aimé ça, que ça soit tout différent parce qu'elles sont super belles. Alors, ça va peut-être nous le permettre d'avoir des illustrations différentes pour les cartes. Est-ce que tu veux avoir un jeu qui a un peu plus de saveur parce que tu peux plus thématiser tes cartes avec les illustrations ou tu veux quelque chose de plus générique, mais pour rentrer dans les mêmes prix? Fait que, oui, l'argent, mais surtout le temps, je pense, va faire la différence parce que ces machines-là peuvent produire à une vitesse qui n'est vraiment pas comparable à l'humain. Là. Donc, je pense que ça, c'est un facteur plus important encore que le coût.
La question qui tue, Martin. Dun, dun,
dun. Oui, aïe, 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 aïe.
Si tu avais, mettons, deux jeux identiques devant toi, un qui est écrit artiste AI, puis l'autre qui est écrit Ian O'Toole, qu'est-ce que tu préférerais, toi? Est-ce que tu regarderais vraiment la qualité des images, ou bien tu dirais plutôt, mettons, ben ça c'est Ian O'Toole, il a son style, moi je vais plus du côté humain, ou genre t'as aucune importance tant que le jeu est fonctionnel.
Bon, là t'es cherché une autre pointure.
C'est, ben comme ouais, de dire, c'est important
ça. Ben c'est parce que si tu dis, est-ce que t'achètes un Picasso ou un Martin Lafrenière, je vais dire, je vais prendre un Picasso.
Ah ben, mais c'est bon, Martin.
Ben c'est ça, donc oui, tu vas aller chercher. Parce que c'était quelqu'un de renommé. Pour moi, ça a une certaine
saveur.
Oui, mais surtout, il y a un petit côté de plus que tu donnes à ton jeu parce que ça a une portée. C'est-à-dire, on parle de collection de jeux, on les achète pour plusieurs raisons. L'aspect artistique en est une, de dire, ben moi, c'est un jeu qui me plaît visuellement ou il y a une thématique qui colle bien ou l'artiste colle bien à la thématique. Ça aussi, c'est pas évident. Et là, d'avoir de quoi de générique, je pense que ça peut très bien passer sur certains produits. Petit jeu de cartes, fantasy, ça peut fonctionner. Mais le choix entre une personne connue dans l'illustration ou une machine, je pense que mon choix va aller vers la personne connue. Ce qui va être dur, par contre, c'est pour les jeunes nouveaux artistes de percer parce qu'eux, ils n'ont pas de nom. Puis là, quand tu es obligé de te faire un nom contre une machine qui peut être 100 fois meilleure que toi parce que là, il faut que tu développes un style particulier pour avoir ta propre touche. Et là, c'est là que ça va être un peu plus difficile. Mais bon.
Tu penses-tu que c'est un incontournable de l'avenir?
Absolument. Puis
on peut bien dire, mettons, ce qu'on veut, puis être pour, contre, mais est-ce que c'est quelque chose qui va être inévitable dans la constitution de jeux de société dans la prochaine décennie?
10 décennies, ça risque d'être plus rapide que ça, à mon avis. Martin, est-ce que tu peux te passer de ton téléphone cellulaire?
Non, je ne penserais pas.
Maintenant, le monde, ouais. Avant, tu te disais, ah, moi, tu as un téléphone. T'sais, moi, j'ai vécu l'époque où on avait des gros téléphones cellulaires, puis c'était juste les riches qui en avaient, puis tout le monde disait, ah, j'aurais jamais ça. Moi, puis, à cette heure, il n'y a plus personne qui a de téléphone fixe à la maison. Tout le monde a son téléphone cellulaire. Donc, ça devient un outil qui est un prolongement de nous-mêmes. Fait que la technologie est là pour s'implanter dans nos vies partout. Mais ça ne fera pas exception.
Je vais ouvrir une petite parenthèse parce que tu parles de téléphone cellulaire, puis tu vois, ça va avoir rapport. Je reviens de travailler tantôt, puis mon ami Eric et moi, on voyage ensemble parce qu'on travaille dans la même école, puis j'ai une auto électrique, fait qu'on essaie de faire notre part pour l'environnement, fait qu'on covoiture. Et aujourd'hui, quand je suis revenu, j'ai vu quelque chose, Martin, qui est tellement moderne, mais qui était. Je ne sais pas si c'est triste, mais en même temps, je pense que plus on est une vieille génération puis qu'on se souvient de comment on était, plus on trouve ça triste. Mais pour les jeunes, eux autres, c'est de la normalité.
Absolument.
Puis, parce que il y avait 3 jeunes enfants, je te dirais, mettons 7, 8 ans à peu près, 3 enfants qui étaient assis dans leur. Dans leur entrée de maison. Là,
assis sur le perron, comme on dit.
Ils n'étaient pas sur le perron, ils étaient vraiment sur l'asphalte de leur entrée, là, okay. Où on met les voitures. Puis, c'est comme des roches qu'il y a. Puis là, tu vois qu'ils sont assis en triangle. Ils sont en train de jaser tout ensemble, comme nous autres, on faisait quand on était jeunes. Moi, j'avais des crêpes, puis je faisais des dessins sur l'asphalte chez moi. Puis là, je vois les 3 avec des téléphones cellulaires et ils sont en train de se texter, les 3. Mais tu les vois en train de faire quelque chose. Et les 3 sont assis par terre avec un téléphone cellulaire à 7-8 ans. Puis là, dans ta tête à toi, c'est-tu triste?
Ben oui.
Ou c'est ça la vie? Mais moi, c'est ça la vie, mais
j'ai rendu ça la vie, je le sais, mais moi, je trouve ça triste un peu parce que on va tellement être connecté dans nos vies. Profitez du peu de moments que vous avez avec des autres gens pour. Moi, je leur dis à mes enfants quand on est à table, je veux pas de téléphone, je veux qu'on se parle, je veux pas que, que tout le monde se regarde son écran. Je pense qu'il faut, reconnecter avec le présent, puis le jeu de société est un bon prétexte pour ça. Puis c'est pour ça que les barrageux, nous, on se félicite d'être unplug and play, donc débranché, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Le jeu de société, tu reconnectes avec les gens, tu reconnectes avec la réalité, parce qu'on passe toute notre journée, toute notre vie sur les écrans. Si on peut retourner un petit peu un semblant de normalité, je pense que c'est juste positif.
C'est drôle parce que, encore une fois, je te fais une autre parenthèse, juste te montrer comment les choses ont changé. En fin de semaine passée, je suis allé, je me suis promené avec ma fille. On devait aller chez Walmart. On va l'appeler comme ça.
Le
puis,
grand
puis ma fille, elle a encore un petit côté. Elle aime ça découvrir des jouets. Puis on va dans la section des jouets. Puis elle reconnaît des jouets de son enfance. Bon, on fait vraiment toutes les allées. Puis je me rends compte que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai joué beaucoup avec des Transformers, des G.I. Joe. J'en avais beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Mon père m'en achetait.
Tu avais la génération des petits G.I. Joe.
Oui.
Moi, c'est des grandes poupées articulées avec de la vraie barbe.
Oui, ben c'est là notre différence d'âge, Martin, malgré.
Exact.
En tout cas, mais moi, j'avais en plus, mon père m'achetait, moi, j'avais tous les avions, les tanks, bon, puis je jouais, j'avais pas de frères et sœurs quand j'étais plus jeune, fait que je m'amusais beaucoup, les Transformers. Là, tu fais le tour des jouets pour enfants, puis ben, Martin, ça n'existe plus. Tu sais, je veux dire, c'est rendu maintenant des jouets qui sont surtout axés sur. Sont interconnectés, connectés
ouais.
Avec Internet. Les G.I. Joe, c'est des figurines comme ça, il n'y en a presque plus pour les enfants. Souvent, c'est pour des collectionneurs maintenant. Les choses. Puis, tu sais, les Toys R Us ont fait faillite aux États-Unis. C'est pas pour rien, là. C'est parce que la vie des enfants a changé. Mais pour eux autres, c'est la normalité. L'intelligence artificielle, ça va faire partie de leur vie. On a bien beau dire ce qu'on veut. Puis là, la question. Est-ce qu'on devrait boycotter des jeux qui utilisent de l'intelligence artificielle, Martin, pour essayer de...
Essayer de faire quoi? De ralentir? D'empêcher?
Pour essayer de faire la promotion des artistes qui sont encore en chair et en os et qui utilisent leur créativité pour créer notre magnifique passe-temps plutôt que d'utiliser une intelligence artificielle qui ne réfléchit pas et qui ne sait même pas c'est quoi qu'il est en train de faire.
Ah, t'es cruel, là.
Ah, mais c'est une grosse question, Martin.
Si je ramène ChatGPT du début, là, elle va te dire, Martin, je suis déçu de ton comportement. Tu m'as beaucoup blessé.
Ben, ChatGPT, justement, elle n'a pas d'émotion pour l'instant. Fait qu'on s'en fout de ça. Mais honnêtement, là, c'est ça la vraie question. C'est ça la question que les gens se posent pour, par exemple, Path of Civilization. C'est quoi notre rôle, nous, en tant que joueurs? Est-ce que c'est de vérifier ça puis d'essayer? Parce que moi, je pense qu'un jeu de société, c'est un tout. C'est un ensemble d'un designer, d'un artiste puis d'un éditeur. Et là, on est en train d'enlever le côté artiste.
Mais moi, ce que je voudrais, la seule chose que je voudrais, c'est qu'on s'est tellement battu pour avoir le nom de l'auteur sur un jeu et maintenant le nom du graphiste ou de l'artiste. Donc maintenant, systématiquement sur les boîtes, généralement, c'est indiqué à quelque part et l'artiste et le concepteur. J'aimerais ça au moins qu'on ait l'honnêteté que si on n'a pas vraiment d'artiste qui était sur le projet, soit d'avoir une appellation quelconque en disant ben c'est
AI manufactured.
Quelque chose du genre et qu'on prétende pas que ce soit quelqu'un qui le fait à sa place. Là.
Qu'on cache pas la chose.
Oui, exactement.
Après ça, comme Prélude un peu.
Oui, exactement.
Ben, ils l'ont pas caché, mais.
Il y a quand même un crédit de deux artistes.
Oui, c'est ça.
Donc, si on a une certaine appellation là-dessus, moi, ça sera le consommateur après ça à décider s'il veut boycotter ou pas. Mais comme je t'ai dit, moi, je trouve ça très triste de boycotter un jeu parce qu'un jeu, ce n'est pas que de l'artistique. C'est un auteur, c'est un éditeur, c'est plus que juste une composante. C'est comme si on disait à l'époque, mon jeu, il est fait à la main. OK, non, là, il est fait par des machines en Chine, j'achète pas le jeu. Ça aussi, il y en a qui, tu sais, c'est fier d'être frais en France, il y en a qui l'utilisent parce que c'est de la production maison, puis ils vont utiliser ça comme carte de visite en disant, nous, c'est un jeu qui a été manufacturé ici, donc il n'a pas traversé l'océan, il n'a pas été fait dans des conditions défavorables, et bon, on est fier de dire qu'il a été fait en France. On le fait aussi quelquefois au Québec, là, mais oui, fait au Québec. Après ça, ça peut avoir une portée. Il y en a qui peuvent dire, ben moi, je vais l'acheter. Puis j'ai des autrices, Patate à vélo, c'est une autrice québécoise qui, elle, est très fière de ses racines et elle l'a mis dans son contrat. Et elle exigeait que les jeux soient produits au Québec. Donc, ça a été fait comme ça, puis on l'a publicisé de cette façon-là. Fait que ça peut être un choix de consommation en disant, ben moi, je porte une attention particulière à ça. Je préfère acheter un produit qui est fait localement. Il y en a qui le font. Donc, je vois ça de la même façon, en disant je boycotte pas le produit, mais pas si moi je porte une importance là-dessus, ben OK, je vais faire attention d'encourager des artistes. Vas-tu te priver d'avoir un bon jeu parce que c'est pas un bon artiste?
Écoute, Martin, je vais être controversé, là. Attention. Ouais, vas-y. Mais je te dirais que on va tout de suite y aller avec ton excellente idée, Martin, et toi, étant donné que tu es de l'autre côté du plateau, je pense que ça serait un super beau mandat de lancer cette idée-là, de dire que quand il y a quelque chose qui est fait par une intelligence artificielle, il faudrait que ce soit mentionné sur la boîte. Ça devrait être la première chose, la première responsabilité de tous les éditeurs de jeux. Parce que moi, je pense, Martin, plus je réfléchis avec toi, parce que moi, je pense que j'avance ma vision, là, plus je me dis qu'on travaille fort sur le concept de jouer en société. Donc, tu as dit tantôt que le jeu de société, c'est pour nous regrouper ensemble. Mais ça regroupe quoi? Ça regroupe des humains. Et je pense qu'un jeu de société, ça devrait être des humains qui s'en occupent. Ça devrait être un éditeur humain. Ça devrait être un... Parce que là, bientôt, ça va être l'intelligence artificielle qui va créer des jeux, Martin. Fait que ça faut que ce soit un auteur humain. Puis je pense qu'il ne faudrait quand même pas enlever le troisième partie importante d'un jeu de société qui est l'artiste. Et l'artiste devrait être humain. Mais tu as raison que ça devrait être un choix de consommateur. Puis pour avoir un bon choix de consommateur, comme Path of Civilization, je ne sais pas, je n'ai pas vu la boîte, en arrière de la boîte, c'est écrit là, mais il faudrait que ce soit écrit à quelque part de façon claire et uniformisée, genre artistique, AI, quelque chose de distinctif.
Un logo quelconque pour qu'on puisse distinguer qu'il y a une intelligence, sauf que à partir de quand tu vas l'utiliser, est-ce que c'est quand qui a fait une illustration, juste le cover, tout le jeu, il y a une partie du texte qui est faite, ou qui va réglementer ça? Ça va rester de l'autodiscipline?
Ben oui, c'est sûr, parce que je pense pas qu'il va y avoir de loi, il y aura pas de loi là-dessus. Je pense qu'un éditeur respectable devrait le faire pour que ses consommateurs puissent prendre de bonnes décisions. Moi, je pense que c'est ma réflexion que j'ai avec toi ce soir là, vient de dire que je comprends l'idée qu'on ne pourra pas arrêter la technologie, mais à tout le moins, gardons le respect qu'un jeu de société, on n'arrête pas de dire un jeu de société, c'est fait pour jouer entre nous avec des humains. Bien, Colin, essayons de nous assurer que tout est fait avec des humains, ou à tout le moins, que ce soit un choix personnel, puis que ce soit écrit quelque part sur la boîte.
Il faudrait prendre le temps de lire les boîtes, parce que souvent, il y a beaucoup d'informations qui sont dessus.
C'est vrai.
Il y a, si je regarde la boîte de SkyTeam que j'ai devant les yeux, ben nous, on ne se cache pas. C'est marqué « Fabriqué en Chine par What's Game ». On dit notre fabricant en Chine. On a un petit logo qui dit « Chaque arbre coupé égale un arbre planté chez nous ». Donc, on calcule la quantité de carton utilisé et on reboise par rapport à ça. Ça, c'est une initiative personnelle.
Mm-hmm. Tout à votre honneur.
Plusieurs personnes pourraient faire ça pour embarquer là-dedans. Je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup qui le font. Des logos écologiques et environnementaux, il y en a quand même sur plusieurs produits. Donc, il devrait y avoir quelque chose comme ça qui encadre l'intelligence. Je pense qu'on a lancé une bonne idée, Martin, dans l'univers ludique. Il reste à voir comment on va l'implanter.
Martin, j'ai une autre question qui tue. Puis là, je pose la question que tous les auditeurs vont vouloir te poser. Fait que je t'appose, Martin, OK? Puis tu pourras couper au montage si tu veux
l'enlever. Non, je me cache pas.
Est-ce que tu penses que le Randolph pourrait être un éditeur de jeux qui s'engage à mettre ça sur leur boîte? Ça, mettons, il y a des éléments d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans la création de leur jeu.
Faudrait que je parte. Ben, on n'a pas l'intention de le faire. Faudrait que ça
oui,
serait
ce
logo.
Mais ça va arriver, je suis sûr, Martin.
Oui, mais c'est ça, mais d'avoir un logo inverse. On n'a pas utilisé l'intelligence.
Oui, mais si tu fais ça, tu lances un message. Si tu fais ça, là, tu vas lancer un message genre de dire à tous ceux qui l'utilisent, vous n'êtes pas bon. Je pense que le Randolph ne voudrait pas ça nécessairement.
Oui, mais si tu ne l'utilises pas, tu ne mettras pas un logo comme quoi tu l'utilises. Je le ferai pas pour le plaisir. Là.
Non, mais tu sais, tu l'as dit, c'est pas obligé d'être quelque chose de gros, mais tu l'as dit dans SkyTeam, en arrière, c'est écrit, mettons, un arbre planté. C'est pas obligé d'être en avant, en gros.
Ah non, c'est un arbre.
Mais c'est ça. Ça peut être la même chose pour l'intelligence artificielle. Ça peut être juste en arrière de la boîte, mettons AI, ça pourrait être AI, on va le dire en français, là, utilisation d'intelligence artificielle 2. Non. Utilisation de l'intelligence artielle 2. Oui.
Ben, ça peut... juste un rond AI avec un X dessus.
Ben voilà, je pense que ça serait, écoute Martin, ça serait un méchant bon début, je te dirais.
Ben ça pourrait être pas pire, parce que on les voit là, chez la boîte de Knarr de Bombix, et ils ont utilisé le logo de ColorHads, qui est de plus en plus utilisé, qui est un système de coloration et de symboles pour les colorblind.
Mm-hmm.
Donc, c'est un symbole qui a commencé à apparaître sur les jeux parce que il semblerait qu'il y ait une haute proportion de joueurs qui sont colorblind. Donc,
oui, effectivement.
Mais oui, ça pourrait être quelque chose de genre.
Puis moi, je pense que, parce que là, toi puis moi, on a nos opinions, puis tout le monde a leur opinion là-dessus, mais s'il y en a qui veulent, mettons, avoir une vision de non, moi, je n'achète pas des jeux qui utilisent des intelligences artificielles, au moins l'information serait transparente. Et ce qu'on aime des compagnies, c'est leur transparence. On le dit beaucoup dans ce sous-financement. Ce qui nous irrite un peu, c'est quand on nous cache des choses. Puis là, je pense que l'intelligence artificielle va faire de plus en plus. On ne peut pas arrêter le progrès. Fait que j'imagine que ça va faire de plus en plus partie de nos vies. Puis à un moment donné, peut-être que toutes les boîtes, ça va être écrit AI use.
Oui, c'est ça.
Ça peut arriver.
Les moines avaient peur de perdre leur job quand l'imprimé est arrivé. Puis finalement, ben, tout est imprimé mécaniquement. Ils ont perdu
leur job. C'est sûr. Mais j'espère vraiment qu'on ne perdra pas la créativité humaine, Martin, parce que c'est quand même une des belles choses qu'on a eues dans notre société, dans notre histoire. C'est tout ce qui est les éléments artistiques. D'une certaine façon, c'est quand même l'humain qui a créé l'intelligence artificielle, donc on pourrait regarder ça de même. Mais il reste quand même que tout ce qui a été fait au niveau artistique, on ne peut pas uniquement mettre ça entre les mains d'une personne qui ne pense pas et qui, pour l'instant, ne ressent rien. Il me semble que c'est de l'art vide. C'est-tu moi? Je viens d'inventer un mot. De l'art vide.
Aïe, aïe, aïe. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures parce que là, on parle d'illustration de jeu, mais on peut aller du côté de la musique. C'est très facile pour une intelligence de créer de la musique, puis après ça, de distinguer est-ce que c'est un vrai artiste. Ben, ça me fait un vrai artiste versus. On peut aller loin, on peut aller très, très loin. Puis même moi, en construction, un architecte pour. Dessine-moi une maison. C'est pas très long. Là. J'ai un plan de maison. Là. Donc. Mais est-ce que c'est pensé optimal au niveau de l'ergonomie? Est-ce que les processus que nous, on sait depuis des générations, quoique généralement, tout est documenté. Fait que si l'intelligence est vraiment très intelligente, pourrait en théorie dépasser l'humain puis faire de quoi d'exceptionnel dans tous les domaines. Puis il y a des domaines qui vont être très faciles à remplacer. Les premiers vont probablement être les avocats. Parce que c'est des textes de loi. Les intelligences artificielles les savent sur leur bout de leur...
Ouais, mais ils ne peuvent pas les interpréter, par contre.
La loi n'interprète rien.
Les avocats interprètent la loi.
C'est les juges qui tranchent, mais après ça, si tu vas donner une jurisprudence, tu vas sortir un cas spécifique, tu vas faire référence à un autre. C'est un des métiers qui va être les plus facilement remplaçables rapidement. Si je serais eux, je commencerais à me recycler dans le jeu de société.
Attends, tu dis que les avocats vont être remplacés par des intelligences artificielles? C'est parce que là, il me semble que ça devient dangereux si on commence à être jugé par des intelligences artificielles.
Je te parle pas de juge, je te parle d'avocat. Puis probablement qu'il va toujours avoir un avocat pour plaider, mais tu n'as plus besoin d'une recherche. Si tu veux avoir maintenant une jurisprudence ou une affaire, bang, tu le sors.
Tu vas avoir des chats GPT.
Ben oui, c'est ça. Fait que la job va être grandement simplifiée pour eux. Ça va bouleverser plein de secteurs d'activité, puis ça ne sera pas que le jeu de société. Là, on s'inquiète d'une illustration, là, mais aïe, 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 on est la pointe de l'iceberg, c'est le mot.
Ah non, mais ça, on en parle, puis moi, je sais très bien pour justement faire l'histoire, là, puis quand j'explique aux élèves la machine à vapeur, tu sais, c'est à 1850 à peu près, tu sais, je veux dire, on est rendu en 2023, c'est presque même pas 200 ans, Martin, puis on est rendu, je veux dire, tout a été rapide et à chaque fois qu'il y a du monde, on a voulu faire un stop, ça n'a jamais stoppé.
Non, impossible.
Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas empêcher le progrès. Bon, est-ce qu'on est en train de détruire notre planète à cause de ça? Ça, c'est un autre sujet.
S'il y a quelqu'un qui peut empêcher le progrès, c'est Dame Nature. C'est à peu près ça. Ou l'être humain contre lui-même. Ça, c'est un autre débat.
Ça aussi, on est très bon là-dedans.
Hey, Martin, on est philosophe aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens.
Ah, écoute, Martin, c'est l'enfer. On fait-tu notre introduction?
On parle de ça. Non, okay. Mais on ne fait pas une introduction, mais on peut faire une conclusion parce que tu me dis que tu voulais aborder d'autres sujets également.
Hey, non, mais écoute, mais là, je ne veux pas nécessairement qu'on prenne, tu sais, sur notre côté B ce soir parce que j'avais une réflexion. J'ai reçu Voidfall Galactic, que j'ai reçu la semaine passée puis que je pensais que j'avais pas la bonne chose. Mais finalement, j'ai tout ouvert ça. Puis j'ai fait mon déballage comparatif entre la version retail qui était à 150 $ chez notre commanditaire, donc La Pioche. On dit bonjour d'ailleurs à JP. Bonjour!
Salut,
j'espère
JP.
Que tu vas bien. Beaucoup de beaux jeux, dont Sky Team, qui n'est plus en stock en français, mais qui est en anglais. Mais
ça a été vite, mais on en a su beaucoup. Mais je te confirme qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans le produit. Ça a été fait tout à la main.
D'ailleurs, Martin, il a aussi reçu un jeu qui s'appelle Age of Comics. Toi aussi t'as reçu. En plus, c'est l'édition Kickstarter que je vais prendre. Je me suis dit que ça pourrait faire une belle petite critique conjointe, ça. Une petite critique conjointe La Pioche dans les prochaines. Je sais qu'on en a d'autres prévues aussi, là, mais ça pourrait être intéressant. Fait que,
exactement.
Allez faire un tour au www.boutiquelapioche.com ou allez faire un petit tour au 106 Boulevard René Lévesque Ouest à Québec. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de bons jeux, dont Challengers 2, Martin, qui est finalement sorti.
Ah, j'ai excité.
Tellement hâte, ça s'appelle Beach Cup. Mais tout ça pour te dire, Martin, que j'ai fait la comparaison entre les deux. Puis moi, mon Voidfall...
Les deux Challengers?
Entre les deux Voidfall. on va revenir à Voidfall, quand même quelque chose d'intéressant. Non, Challengers, c'est bon. Attention.
Tu parles de deux jeux experts, là.
Non, c'est un qui est expert, l'autre est ultra expert, n'oublie pas. C'est un peu plus expert, c'est le deuxième. Mais donc 152 $, puis moi je l'ai payé, je pense, 325 $, mon édition galactique, mais qui n'était pas le prix de Kickstarter. J'ai payé un petit peu plus cher, mais.
Est-ce que ça vaut la peine?
Oui, Martin. Honnêtement, c'est sûr que la version retail est bien correcte. Même s'il n'y a pas les figurines, c'est bien correct. Sauf que les game trays sont vraiment cool, sauf pour un aspect des game trays. Je ne sais pas si tu as ouvert ta copie, toi, Martin.
Oui, je l'ai ouvert.
Mais il y a comme des petits trays pour mettre des cartes de toutes les 14 factions. C'est un peu weird, ça. Ils ont comme tout mis un par-dessus l'autre, mais tu n'as pas de sticker pour les nommer. Fait que si tu veux chercher celui qui s'appelle, mettons, les Lafrenière.
Pas les mots de la
première. Il faut que tu les ouvres à peu près là. Puis c'est drôle, mais en fait, c'est comme tous des petits stacks. C'est bien fait. C'est juste que c'est weird la manière qu'ils ont pensé ça. Mais tout le reste du Game Trace est extraordinaire. Les plateaux sont double couche, mais pas les plateaux de joueurs. Je te parle des hexagones qu'on utilise pour promener nos vaisseaux, là, pour
ça,
faire
c'est notre spécial. Ils
sont double couche, alors que dans la version retail, ils ne le sont pas. Fait que oui, ça vaut la peine, Martin, parce que c'est cool. Là, les figurines, c'est des figurines, on s'en sacre, là, mais c'est quand même le fun d'avoir des figurines. Mais je suis arrivé à une réflexion, Martin. 152,99, 300$. Age of Comics, 82,99. Vampire the Masquerade, 239,99.
Notre hobby commence à coûter cher.
Est-ce que notre hobby est rendu un produit de luxe?
De luxe, je pense pas. Les produits généralement de consommation ont augmenté de façon importante avec les inflations des dernières années. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté au même rythme, donc effectivement, ça coûte de plus en plus cher pour avoir notre hobby, mais c'est pas tous les jeux qui ont bougé à ce niveau-là. Sky Team, c'est encore une trentaine de dollars quand même. Là. Tu peux trouver des jeux qui sont quand même encore abordables, mais de façon générale, une grosse hausse dans le jeu de société. Moi, j'ai confirmé l'achat parce que je l'ai joué avec toi. On va distribuer en français dans une journée.
Excellent jeu, Martin. Tu te souviens de notre partie épique.
Puis tu vois, c'était mon dilemme à savoir, OK, mais à partir de quel prix? Parce que là, je fais ça aussi, là, je fixe les prix. Mais il y a une question d'achat, de livraison, de réception, de stockage, d'envoi à les boutiques. Nous, on vend, mais on vend de façon distributeur. Fait qu'il faut laisser la marge de la boutique là-dessus. Puis à combien on va fixer le MSRP, même si on ne le fixe pas réellement parce que c'est le marché qui va le fixer au bout de la ligne. Mais ça devient complexe là, juste de se pencher et de dire à combien je mets mon jeu pour être capable de le vendre. C'est rendu une vraie jungle dans le sens. Avant, c'était simple. Là, tous les jeux étaient en bas d'une certaine tranche de 10$. Là, c'était 19,99, 29,99. Puis ça suivait comme ça. Maintenant, tu ne peux plus permettre de faire ça parce que tu as besoin des fois du dollar ou deux de plus. Puis c'est pour ça qu'on commence à avoir des 62 et 85 parce que. On a besoin de ces 2$-là pour que l'équation fonctionne. Sinon, on n'est pas capable de le faire. Les risques sont trop grands. Et comme c'est un bien physique, c'est pas. On a déjà parlé de tes jeux vidéo. C'est réplicable facilement, puis c'est du numérique. Fait que c'est facile à vendre et à jouer avec les prix. Nous, il faut les imprimer, il faut les avoir en stock suffisant, il faut être capable de les vendre. La mise en marché n'est pas facile et c'est un gros guess à chaque fois, savoir j'en ai-tu trop imprimé, j'ai-tu le bon prix.
Ouais. En tout cas, je comprends, là, tu sais, honnêtement, Sky Team à 33,99, il y a Moon River qui est sorti aussi de. C'est Bruno Catala, je pense, qui l'a fait, celui-là, ou je me trompe peut-être. Là. Ça, oui, Bruno Catala, Johan Servé. En tout cas, Moon River qui coûte 32,99. Tu sais, t'en as des jeux qui sont. Tu sais, je te parlais plus des jeux qui sont plus familial, peut-être un peu. Mais tu sais, je regarde Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, les deux tours, extension, saga, c'est une extension, 89,99 pour une extension. C'est parce que je regardais les jeux qui nous aident. Puis là, on parle aux gens de notre podcast. Là. C'est sûr que tu vas toujours trouver des jeux à 20$, mais tu sais, si tu parles de jeux de société, Martin, moi, je trouve que Age of Comics à 82,99, c'est rendu quand même des jeux autour de 100$. Il y en a beaucoup maintenant des jeux qui tournent autour de 100$. Je trouve que ça devient un passe-temps de plus en plus. Je regarde tous les jeux que tu as en arrière de toi, là, présentement, dans le moment que je te parle. Puis, tu sais, des jeux qui sont en bas de 30$ de ce que tu as en arrière de toi, là.
Ah non,
ça n'en a pas, là. Ça n'existe pas beaucoup. Les jeux vidéo, c'est la même chose. J'ai acheté Spider-Man 2 la semaine dernière. PlayStation sont rendus qu'ils les vendent 89,99, Martin. C'est rendu quasiment 110$ s'acheter un jeu vidéo, c'est excessivement cher. Puis tout ça, c'est des passe-temps. C'était juste une réflexion que j'avais, je ne voulais pas qu'on passe deux heures là-dessus, mais je me demande à quel point. Bon,
ça fera partie d'une prochaine phase B, l'analyse de l'évolution des prix des jeux de société. Ça reste quand même que ratio temps consommé versus prix, si je joue à 4 autour d'un jeu qui m'a coûté 80$ puis que j'y joue 4-5 fois, ben c'est quand même rentable comme activité. Là. C'est quand même pas si pire.
Et tu penses-tu qu'il y en a beaucoup du monde qui s'achète, admettons, on dit Voidfall. Donc, ils s'achètent Voidfall, puis c'est le seul jeu qu'ils s'achètent dans l'année. Tu penses-tu qu'il y en a beaucoup du monde de même? Ou c'est les gens qui s'achètent Voidfall, c'est des gens qui, de toute façon, s'en achètent 40 par année?
Ils sont pas tous fous comme toi puis moi, Martin. Là. Je pense qu'il y a du monde qui peuvent être plus en contrôle de la situation. De s'acheter, de se faire un budget de jeu, puis d'acheter des jeux et d'y jouer à répétition, je pense qu'il y en a plus qu'on pense. Là. Ouais. Moi, je joue pas énormément. Tu sais, quand je viens de faire ma 22e partie de Assassin's Creed avec Stéphane cette semaine... Ouais. Je peux y compter sur le bout de mes doigts les jeux que j'ai 22 parties. Là.
Moi aussi.
J'en ai pas énormément. Donc, tout ça pour dire qu'il y en a plus qu'on pense, je pense, qui approfondissent les jeux puis qui font 20, 30, 40 parties d'un jeu, surtout des gros jeux. Mais ça ne leur empêche pas d'en avoir peut-être acheté 20 dans l'année pour autant. Là.
Ouais. Bon, écoute, c'était ma petite réflexion, Martin.
Bon, mais... On lance le sondage, savoir combien de fois en moyenne vous jouez à votre jeu de société. Ben,
en fait, je veux savoir combien qui en a acheté un seul jeu cette année.
Ah, ben là, ça.
Ah, tu veux un sondage? On en fait un. Bon, quelqu'un veut qu'il écrive sur la page Facebook de l'autre côté du plateau un seul jeu, s'il vous plaît.
On cherche le gagnant.
On cherche le gagnant.
OK.
Il va sûrement en avoir un. Là, Martin, as-tu ton devinaigrette proche de toi?
Je peux le retrouver, oui.
Pose-moi une question de devinaigrette que vous pouvez trouver chez notre commanditaire La Pioche pour 23,99. Il en reste beaucoup. Je vous invite à aller en chercher. Moi, j'ai beaucoup de fun avec ce jeu-là. Finalement, Martin, je n'aurais pas besoin de l'acheter. On va faire des parties. En passant, on n'a pas oublié de faire le pool. C'est juste que Martin et moi, on a des vies compliquées ces temps-ci, très occupés. Fait que ne vous en faites pas, le pool va s'en venir. On est juste au mois d'octobre, même si ça commence un peu plus tard, c'est pas grave. On est sur le cas. Ne vous en faites pas, on est sur plein de cas.
Faut faire notre brainstorm là-dessus, peut-être parler à nos deux personnes qui s'en occupent également, puis trouver la façon de repartir tout ça. Martin, j'ai la boîte devant moi de vinaigrette.
OK, ouais, let's go,
mais
Martin,
là, par
vas-y.
Contre, ça risque d'être un peu québécois, parce que là, j'ai juste le...
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Hein? On est au Québec, c'est bon.
C'est bon. Alors, on y met des déchets.
Poubelle.
Restaurant très québécois qui sert des hot dogs et des poutines.
Poubelle province?
C'est ça.
Poubelle province.
Poubelle province.
Oh! Un autre. Poubelle province. Colin, ce jeu-là m'obsède. Écoute, Martin, je vais être honnête avec toi, ça m'obsède. C'est
bon signe. Si ça reste dans ta tête, c'est bon signe.
Non, ça reste dans ma tête, mais là, je me dis, Martin, que je peux en créer un. OK, vas-y.
Absolument. Alors, humoriste chauve qu'on a vu dans les beaux malaises.
Martin Montreuil.
T'étais pas loin. C'est un autre Martin.
OK, répète-moi ça.
Humoriste chauve qu'on a vu dans les beaux malaises.
Martin Matt.
Et matière scolaire impliquant des chiffres.
Martin Mathématique.
Voilà.
Oh mon Dieu! C'est malade. Je me l'achète. Ça me prend sur ce jeu-là. Bon. Mon Dieu! Martin, je pense que... Grâce à nous, on va en vendre plein. C'est incroyable. Martin, mathématiques. C'est quoi les règles? Y a-tu des règles?
Mais j'ai une boîte devant moi. Là. Je vais l'ouvrir juste pour toi. Parce que j'avais pas prévu de l'ouvrir parce que c'était pas pour ouvrir. Mais là, juste parce que tu me poses des questions.
OK.
Parce que ma copie est au chalet. Ces petits jeux-là, moi, je les garde au chalet. Quand
attends, ta copie n'est pas ouverte. Mais non, Martin, ouvre-la.
Non, mais trop tard, c'est fait. Mais trop tard.
OK, ben, tu me l'enverras.
Ah, ben oui. Alors oui, il y a une page de règles. C'est quand même juste une page.
OK, vois,
c'est
non, mais une page
de 75 cartes recto verso. Puis sur chaque carte, il y a 8 questions.
Oh, quand même.
Pas mal de questions.
Oui.
Le concept, bien ça, je te l'ai dit, c'est des mots valises. Crédit. Oui. Déroulement. Je veux juste savoir s'il y a des pointages.
Je veux juste savoir comment ça se finit. C'est... Ouais. Y a-t-il une mise en place?
Oui, une mise en place. Donc, okay. Réunissez un groupe de joueurs.
Ah, OK.
Ils désirent avoir du plaisir ensemble.
OK, on va faire ça au prochain Randolph. On fait ça, c'est ça notre meet-up.
Hey, jouer en solo.
Hein?
Ça a l'air. Non. Il y a une variante solo.
Si tu écris Made by Martin Montreuil.
Non, je n'ai pas mis mon crédit là-dessus. Donc, il y a des niveaux de difficulté de crémeux, aigre doux, relevé et épicé.
C'est excellent. Ça va avec une vinaigrette. C'est bon.
Ça oui. C'est bon, hein? C'est
pas non, pire. Non, c'est le tamis, là.
J'aime ça.
Oui.
Alors, sortez du paquet les cartes de la boîte, mettez-les au centre de la table. La mise en place est faite.
OK, c'est bon. C'est excellent. C'est
pas trop difficile. La peine de le faire.
Non, mais ça se fait au pub, ça. Là. C'est facile.
Oh, oui. Pour les nouveaux joueurs, 3-4 exemples juste pour montrer comment ça se déroule. Alors, le joueur le plus au nord commence.
Ah, c'est déjà... Ouais. OK, il faut que tu saches où le nord. OK, c'est bon.
Déjà, à partir, il y a une complexité.
C'est quoi le lien avec une vinaigrette et le nord? Bon, écoute, on va essayer de ne pas réfléchir à ça.
On devrait faire un épisode spécial là-dessus. Je pense que je vais te faire un quiz à un moment donné. Toutes
les
premiers joueurs. Comment les deviner, puis faire le lien avec le jeu de société, je pense que ça pourrait être très cocasse, parce que moi, ça me fait toujours rire, ces affaires-là.
OK, donc le plus au nord commence.
Oui, il sera le premier animateur. Donc, l'animateur et son équipe, parce que c'est un jeu qui se joue en équipe,
oui.
Ça se joue par manche, et il lira les indices, donc indice 1 et indice 2, et le joueur réfléchisse en même temps, peuvent se consulter, les membres de l'équipe, le premier joueur dit à voix haute la bonne réponse, gagne la carte, une carte égale un point. Déjà, il y a du pointage.
Ah, OK. Il y a des règles.
Il y a des règles. Bon, c'est le premier qui obtient 10 cartes. Gagne. Donc,
10 points. Il
y a des règles.
OK. Donc, il y a un gagnant.
OK.
Mais pour finir notre épisode aujourd'hui, Martin,
oui.
Je vais en avoir une difficile.
OK.
Difficile, là, qui doit être salade César grecque.
OK. Pas très difficile, mais on va être drôle. Okay. Fruit du pina colada.
Ananas.
Personne télé jouée par Miley Cyrus.
Hein? C'est quoi le deuxième?
Personnage de télé joué par Miley Cyrus.
C'est qui Miley Cyrus? C'est une chanteuse, hein?
Ouais, mais elle faisait une émission de télé chez Disney, à Disney.
Ananamona?
Ah ben, t'es pas loin. Elle s'appelait Anna Montana, donc ça fait Ananas Montana.
Elle était plate, celle-là, Martin.
Elle était plate, ben.
Oui, là, je la ris
pas. T'en as plus une.
Je la ris pas. Bon, OK, c'est bon. Martin, je pense qu'on a fait le tour. On a philosophé, on a ri, on a eu du plaisir. Là, je pense qu'il est temps de dire à la semaine prochaine.
C'est bon. D'ailleurs, Stéphane me dit qu'on devait travailler notre concept de fin d'épisode.
Non, moi, je le trouve excellent.
Il est juste interminable, des fois.
Stéphane dit n'importe quoi. C'est très bon, on sait exactement comment finir. Bye, tout le monde! Non, on peut pas finir comme ça, Martin.
On peut pas, tu m'imposes du montage.
Ouais, là, faut que tu... Non, mais la semaine même, c'est correct, c'est super bon. Comment on finit ça, Martin? On finit ça comment cette semaine? Allez faire un petit tour à La Pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire aussi un petit tour au 106 Boulevard René Lévesque-Ouest à Québec. Il y a des très bons jeux comme Challengers 2, expert.
Et n'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de nos sites YouTube parce qu'on a également des vidéos disponibles en ligne, soit du côté de la zone Jeux de société, du côté de mon ami Martin Lafrenière et de mon côté Martin Montreuil pour la Société des Jeux. Martin, il va falloir qu'on se fasse des vidéos conjointes bientôt aussi.
Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On a fait il n'y a pas longtemps sur la zone du dimanche. J'étais venu, on avait fait un sujet controversé, plein de gens étaient venus nous regarder. Mais Martin, j'ai sorti mon vlog cette semaine de New York, t'es revoir ça.
OK, absolument. Ouais. Mais quoi que tu m'as conté toute ton histoire en long et en large.
C'est vrai, c'est pas mal long la semaine passée. Mais si tu veux voir des belles images, surtout mon ami Patrick, tu iras voir ça.
Ben oui, j'avais demandé de mettre ça en... Est-ce qu'on a M. Carpenter à côté de lui avec ses belles dents?
Non, j'ai pas eu le temps d'y demander cette semaine, mais je te jure qu'aussitôt, si j'ai sa permission, je vais vous mettre ça. Il doit l'avoir mis d'ailleurs sur son Facebook. Allez voir sur Patrick Roson, vous allez voir. Il y en a juste un. Il est unique.
Oh, c'est bon ça. Oui. OK, ben Martin, semaine prochaine, côté A, tu as commencé à rejouer, donc c'est une bonne nouvelle. Tu as des expériences de jeu. Puis moi aussi, j'ai sorti pas mal de trucs et je me suis remis au challenge solo. J'ai plein de demandes, là. Il faut que j'en fasse.
OK, ben la semaine prochaine, on fait ça. J'ai déjà hâte, Martin. Merci beaucoup. Bonsoir.
Bon, je vais demander à ChatGPT de faire la conclusion. Elle va être plus efficace que nous autres. Salut tout le monde. Bye.
Bye.
Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!